7h, le journal de Cécile Bideau. Bonjour Cécile.
Bonjour. Nul doute que la poignée de main sera glaciale. Vladimir Poutine et Joe Biden doivent se rencontrer pour tenter de trouver une issue à la crise ukrainienne. L'accord a été arraché au cours de la nuit par la France. À la frontière avec la Russie, les combats s'intensifient dans le Donbass. Reportage de notre envoyé spécial dans un instant. En France, une adolescente de 17 ans est toujours en garde à vue ce matin après un terrible accident de chasse dans le Cantal. Une balle perdue a tué une randonneuse. La question de la cohabitation entre chasseurs et promeneurs est une nouvelle fois posée. Après le roussellement, va-t-on parler de Rousselgate ? Le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, est soupçonné d'avoir bénéficié d'un emploi fictif à l'Assemblée nationale, selon les révélations de Mediapart détaillées dans ce journal. Tous les candidats ont rendez-vous ce matin avec les dirigeants d'entreprise. Le MEDEF et d'autres organisations patronales veulent en savoir plus sur leur programme. On en parle également avec votre invité Jérôme à 8h20.
Oui, le secrétaire général du syndicat CGT, Philippe Martinez, invité du grand entretien de cette matinale. Question sur le pouvoir d'achat, sur la situation d'EDF, sur la baisse du chômage. Auditeur d'Inter, vous nous appelez dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal, nous revenons sur plusieurs allègements de restrictions face à l'épidémie de Covid-19, protocole dans les établissements scolaires et réouverture des discothèques et autres thés dansants. Et puis nous prenons une bonne bouffée d'humour avec la pièce britannique Black Comedy au Théâtre du Splendide à Paris.
France Inter.
Entre guerre et paix, la situation ne tient toujours qu'à un fil entre l'Ukraine et la Russie. Au cours de la nuit, c'est un signal d'espoir qui est venu de l'Élysée, de la Maison Blanche et du Kremlin. La médiation de la France a permis d'obtenir le principe d'une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden. La date n'est pas encore arrêtée. On sait juste que jeudi, les secrétaires d'État des deux pays prépareront ce sommet. Tout cela ne pourra se faire qu'à une condition, préviennent les Occidentaux, que les Russes n'envahissent pas l'Ukraine d'ici là. Car sur le terrain, la situation est encore très tendue dans la zone frontière du Donbass. Les affrontements entre séparatistes pro-russes et les militaires ukrainiens se font de plus en plus intenses. L'un des envoyés spéciaux de France Inter sur place, Thibault Lefebvre, s'est rendu à Avdiivka, où les civils sont pris entre deux feux.
La ligne de front est à moins de 500 mètres derrière un champ de mine signalé par un panneau.
Ligne fronte.
Vadim habite un immeuble criblé d'éclats d'obus entre d'un côté les positions de l'armée ukrainienne et de l'autre des séparatistes pro-russes. Pris entre deux feux, il s'est habitué à vivre sous la menace des bombardements.
Ça fait 8 ans que nous n'avons plus peur. Tout le monde se tire dessus. Les nôtres, l'armée ukrainienne et ceux d'en face.
Hier, à la mi-journée, des obus explosaient toutes les 2 ou 3 minutes.
Vous fumez une cigarette derrière le bâtiment et pas devant.
Pourquoi fumer devant ? C'est dangereux là-bas.
Et c'est de ce côté qu'un tir d'artillerie a détruit, il y a 8 ans, l'appartement de Marina. Malgré le danger, elle est venue montrer à 2 de ses 3 enfants les vestiges de sa vie passée.
On en a marre de tout perdre. La nuit dernière a été terrible. J'ai eu un 3e enfant et je ne veux pas qu'elle vive ce que les 2 autres ont vécu.
Et notamment Nikita, le cadet de la famille, qui pendant plusieurs semaines a été suivi par un psychologue après avoir perdu l'usage de la parole.
Quand ça tire, ça m'arrive d'avoir peur.
Qu'est-ce qui fait peur, bonhomme ?
La guerre.
Nikita a 9 ans, il avait seulement 1 an quand la guerre a commencé.
Un reportage réalisé avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. En Tunisie, c'est un juste retour à l'expéditeur. 213 conteneurs de déchets ménagers arrivés illégalement d'Italie en 2020 ont été renvoyés d'où ils venaient. Ces détritus devaient être enfouis sous le sol tunisien en toute discrétion. Ce sont les mafias italiennes et tunisiennes qui étaient à la manœuvre. Mais la société civile et les écologistes se sont mobilisés et ont remporté une victoire aussi retentissante qu'inattendue. Notre correspondante en Tunisie, Maureen Mercier, était la seule journaliste présente au port de Sousse ce week-end. Elle a pu assister au départ du navire.
Ce moment, Nidal, la trentaine, ne l'aurait manqué pour rien au monde. Dans la nuit, le navire et ses 213 containers remplis de poubelles repartent dans leur pays d'origine, l'Italie. Cette victoire a été arrachée par ces jeunes activistes tunisiens qui se démènent depuis près de 2 ans pour le renvoi de ces détritus arrivés sur le sol tunisien illégalement.
C'est un jour historique.
Un combat à la David contre Goliath. À ses côtés, sur l'immense quai, Oussem, ému lui aussi, mais toujours en état d'alerte.
Il y a encore des possibilités que d'autres déchets entrent en territoire tunisien.
Il est en colère, surtout contre l'Union européenne.
L'Europe, lorsqu'elle reçoit des jeunes tunisiens sur leur territoire, elle se bouche le nez. Par contre, lorsqu'elle déverse ses ordures sur le territoire africain, il n'y a pas de problème. Il faut que ça cesse.
La Tunisie croule sous ses propres déchets. Les déchets italiens représentent une bombe écologique. Sans le travail acharné de la société civile, les poubelles auraient été enfouies. Oussem résume.
On a gagné une bataille, mais pas la guerre.
Alors que les activistes luttaient pour obtenir le renvoi en Italie de ces poubelles, deux autres cargaisons de plusieurs milliers de tonnes ont été interceptées juste à temps. Sousse, Maureen Mercier, France Inter.
La tempête Franklin a fait deux morts hier soir dans le département de la Manche. Un couple de septuagénaires est décédé à Granville. La voiture dans laquelle ils circulaient a été emportée par les eaux sur une route submersible. Le cyclone Emnati a quant à lui frôlé l'île de la Réunion la nuit dernière sans faire de dégâts majeurs. L'alerte rouge vient d'être levée.
France Inter 8h06, le débat entre pro et anti-chasse repart de plus belle après l'accident de samedi.
Dans le Cantal, une randonneuse de 25 ans est morte victime d'une balle perdue alors qu'elle se promenait sur un chemin balisé près d'Aurillac. Le coup de feu a été tiré lors d'une battue au sanglier par une adolescente de 17 ans qui est depuis en garde à vue. L'âge de la chasseuse interroge et pourtant Faustine Calmel, elle était parfaitement en règle.
Dès 15 ans, les jeunes peuvent accompagner un chasseur sans être eux-mêmes possesseurs du permis. Il faut alors suivre une formation pratique dispensée par les fédérations départementales de chasse. Ils ne peuvent pas avoir une arme à eux, mais sont autorisés à tirer avec celle de leur tuteur et à partir de 16 ans, ils peuvent pratiquer seuls. L'accident de samedi ne doit pas remettre ce modèle en question, défend Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs.
La personne qui est concernée, elle avait une formation. La formation, elle est délivrée par l'État. Donc c'est quelque chose de très strict avec la maîtrise de l'arme, la connaissance de l'arme. Donc ne nous trompons pas. Ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de réaction.
Et finalement, ce ne sont pas les jeunes qui représentent le plus grand danger, estime Dominique Py, en charge du dossier chasse à l'association France Nature Environnement.
Maintenant, je pense que la formation des jeunes est quand même assez poussée, et certainement plus que celle des chasseurs plus âgés. Donc s'il y a vraiment des efforts supplémentaires de formation, je pense que de manière générale, c'est quand même plus en direction des chasseurs âgés qu'il faut les porter. Pour passer le permis de chasse, il faut un examen médical. Par contre, par la suite, cet examen n'est pas répété. Pour les chasseurs qui deviennent âgés, vérifier que l'ouïe, la vue sont à un niveau suffisant pour pouvoir chasser, ça serait quelque chose d'utile à mettre en place.
Petite avancée, depuis octobre 2020, les chasseurs doivent suivre tous les 10 ans une formation obligatoire sur les règles de sécurité.
C'est un candidat à la présidentielle qui a jusqu'ici le vent en poupe et même la sympathie de certains de ses adversaires. Fabien Roussel risque aujourd'hui d'être embarrassé par une affaire révélée par Mediapart. Le secrétaire national du Parti communiste est soupçonné d'avoir bénéficié d'un emploi fictif à l'Assemblée nationale. L'histoire récente a montré que ce genre d'affaire pouvait peser lourd sur une campagne présidentielle, Anne Souhaitement.
Le Penelope Gate et les soupçons d'emploi fictif avaient coûté cher à François Fillon en 2017, quid de Fabien Roussel en 2022. Dans une enquête mise en ligne hier soir, Mediapart affirme que pendant 5 ans, de 2009 à 2014, Fabien Roussel a été rémunéré 3000 euros net par mois en tant qu'assistant parlementaire d'un député communiste. Problème, le site d'investigation n'a pas réussi à recueillir la moindre trace de travail effectif, ni documents, ni mails, ni SMS. Pire, l'enquête démontre que pendant toutes ces années, Fabien Roussel travaillait en fait au Parti communiste. Des révélations qui tombent mal pour le candidat qui a fait de la probité des élus un argument de campagne. Aucun triomphalisme pour autant depuis hier soir dans les autres écuries de gauche, et notamment chez Jean-Luc Mélenchon, où on a eu pour ordre de ne pas faire le moindre commentaire. Laissons-le s'expliquer. Contacté par France Inter, le candidat à la présidentielle n'a pas donné suite.
Fabien Roussel qui sera, comme les autres candidats à la présidentielle, face au patron aujourd'hui. Le MEDEF et d'autres organisations patronales reçoivent à Paris les prétendants à l'Élysée pour les interroger sur leur programme en matière d'économie, mais aussi d'écologie et de sécurité. Des thèmes chers aux électeurs seront bien sûr sur la table, les salaires et les pouvoirs d'achat. Bonjour Kathleen Comte.
Bonjour.
Alors que proposent les candidats sur ces questions ? Alors à gauche, Jean-Luc Mélenchon souhaite porter le SMIC à 1400 euros net par mois contre 1270 actuellement. Anne Hidalgo propose une hausse de 15%, soit 200 euros de plus. Quant à Yannick Jadot, il promet un SMIC à 1500 euros net mensuel. À droite, Valérie Pécresse propose d'augmenter de 10% sur 5 ans les salaires nets de ceux qui touchent moins de 2800 euros par mois. Marine Le Pen souhaite une hausse des salaires de 10% en exonérant les entreprises de cotisations patronales. Et Éric Zemmour veut augmenter le salaire net jusqu'à plus de 100 euros par mois pour un travailleur au SMIC grâce à la baisse des charges sociales.
Plus largement, quelles sont les autres propositions, notamment en matière de temps de repos dans les entreprises ?
Eh bien, une 6e semaine de congés payés pour Jean-Luc Mélenchon, mais aussi la retraite à 60 ans et les 32 heures dans les métiers pénibles. Anne Hidalgo veut engager des négociations salariales dans les entreprises pour que l'augmentation des salaires favorise le plus grand nombre. Yannick Jadot prône la réduction du temps de travail. Valérie Pécresse veut permettre aux salariés de convertir davantage de RTT en salaire sans limite et sans charge. Marine Le Pen, elle, parle aux jeunes actifs en proposant notamment de les exonérer d'impôts sur le revenu jusqu'à 30 ans. Enfin, Éric Zemmour souhaite que 50% des frais de carburant domicile-travail des salariés soient remboursés par les entreprises.
Kathleen Comte du service économie de France Inter. Ce que veulent les Français à 48 jours du premier tour, France Inter vous propose ce matin un sondage réalisé par l'Institut Ipsos Soprasteria. Nous avons voulu savoir quel type de président était attendu pour le prochain quinquennat, quelles étaient les qualités requises. Selon cette enquête, le futur locataire de l'Élysée doit être en numéro 1 proche et à l'écoute, en numéro 2 capable d'affronter les crises. 51% des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron possède ces qualités. Il devance Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Vous retrouvez toutes ces données détaillées sur franceinter.fr. Les candidats ont jusqu'au 4 mars, moins de deux semaines donc, pour récolter les 500 parrainages indispensables pour se présenter. Christiane Taubira, Marine Le Pen, Éric Zemmour sont encore incertains. Jean-Luc Mélenchon également. Le candidat de la France Insoumise vient de recevoir un parrainage inattendu, celui de David Lisnard, maire Les Républicains de Cannes et président de l'Association des maires de France. Il soutient Valérie Pécresse, mais estime que ce serait une atteinte à la démocratie si des candidats tels que lui ne pouvaient pas briguer les suffrages des Français.
Un nouveau venu dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 en France.
Novavax arrive cette semaine. 1 140 000 doses de ce vaccin à la technologie plus traditionnelle que l'ARN messager. Il est destiné à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de la vaccination, méfiant à l'égard des autres produits. Pour les élèves qui reprennent les cours en ce moment même, ceux de la zone B dans les académies d'Aix-Marseille, Lille, Nice, Toulouse, Tours ou encore Strasbourg, il y a du changement. Le protocole sanitaire est allégé. Plus de masques dans les cours de récréation et les séances de sport en intérieur. Fin de l'attestation sur l'honneur pour les cas contacts. À partir de lundi prochain, il n'y aura plus qu'un seul test obligatoire au lieu de 3 aujourd'hui. Plus léger aussi les pieds des danseurs qui ont pu retrouver les discothèques ce week-end. Elles étaient fermées depuis près de 3 mois. Et hier, les amateurs de thé dansant du dimanche étaient au rendez-vous. Anaïs Martin-Covy est allée à la rencontre des divas du dancing.
Et après 3 mois d'arrêt, il faut se rappeler de ses petits pas de danse.
Je suis arrivée, je dis, oh mais je ne sais plus danser moi.
Martine est une habituée.
La réouverture, c'est parfait. On est très très content. Tout le monde est content de se retrouver en respectant bien sûr ce qu'on doit respecter, c'est tout. Hein. Et puis regardez aujourd'hui, c'est l'ambiance, c'est la gaieté, c'est la joie. Hein. Moi, je trouve formidable. Hein.
Il était temps pour Daniel, 80 ans, qui commençait à s'embêter.
Rester pendant tout l'hiver entre 4 murs, ben c'est pas drôle. Alors dès que ça a été ouvert, aujourd'hui, je suis là.
Jeanne-Marie quitte la piste un instant pour reprendre son souffle.
Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de retrouver mes amis parce que ça nous manque.
Elle est venue avec son mari, Jean-Louis. Il attend le bon moment pour la mener danser.
Oui, on est bien là, on peut danser. Il n'y a que des vieux, mais c'est bien. C'est un plaisir. Le dimanche, c'est ça, enfin. Et on espère que ça referme.
Et qu'est-ce que ça fait plaisir?
Florian a le sourire aux lèvres. Enfin, son parquet est de nouveau usé par les talons.
Tous mes clients sont au rendez-vous, donc ils avaient qu'une hâte aussi, c'est de reprendre la danse les dimanches après-midi. Donc, ce qui est chose faite, j'espère que cette fois, c'est la bonne.
Sur le calendrier, le rendez-vous est pris tous les dimanches. On se met sur son 31 pour aller guincher.
Reportage France Bleu Creuse.
Et après le dancing, une sortie au théâtre.
Oui, on a vraiment besoin de rire en ce moment. Et de l'humour, la pièce britannique Black Comedy n'en manque pas. C'est un classique du burlesque signé Peter Schaeffer, auteur entre autres d'Amadeus, adapté au cinéma. C'est en ce moment à Paris, au Théâtre du Splendide. Et le point de départ est audacieux. L'histoire se passe dans un appartement plongé dans le noir à cause d'une panne de courant. Stéphane Capron.
C'est la seule comédie laissée par l'auteur Peter Schaeffer. Et quelle comédie avec cette idée géniale de jouer sur l'obscurité dans ce huis clos où une soirée va tourner au cauchemar pour les personnages. Quand les acteurs sont censés être dans le noir, le plateau reste éclairé, ils doivent faire comme s'ils ne se voyaient pas. Une performance qui a nécessité une sacrée mécanique de jeu pour toute la distribution emmenée par Arthur Jugnot.
Même en répétition, donc, on répète avec des masques d'avion ouais, pour dormir, pour essayer de se rendre compte comment on agirait quand on est dans le noir. Et puis après, bah, il faut jouer avec des acteurs, mais il faut mettre une théâtralité, donc il faut ouvrir les yeux et se parler, mais en même temps, il ne faut pas se parler vraiment dans les yeux, parce que sinon, pour les spectateurs, ils ont l'impression qu'on se voit, donc il faut regarder à côté, mais en même temps, il ne faut pas regarder trop loin, parce que les gens se disent, bah, non, il est débile, il entend bien que la voix parle. Donc le tout est d'être crédible dans l'obscurité, tout en étant efficace, drôle et sincère.
Plus la pièce avance, plus le plateau se déglingue. Virginie Lemoine est hilarante dans le rôle d'une voisine qui n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie et qui, à cause de l'obscurité, s'enivre de gin tonic. C'est du grand burlesque dans la lignée des maîtres que sont Laurel et Hardy, Buster Keaton ou Chaplin.
Black comédie de Peter Schaeffer au Théâtre du Splendide à Paris jusqu'au mois de juin. Les footballeurs de Marseille se sont laissés surprendre par la volcanique équipe de Clermont-Ferrand hier soir lors de la 25e journée de Ligue 1. Le promu a battu l'OM, deuxième au classement au Vélodrome, 2-0.
Et merci Cécile Bidot pour ce journal très musical. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Marie-Pierre, la matinée va rester agitée.
Et oui, Jérôme, car le vent venant de la tempête Franklin sur les îles Britanniques va encore souffler jusqu'à 110 km/h près de la Manche, mais aussi sur les Alpes et à 90 sur les autres reliefs. Et en Corse, les vents sont tempétueux jusqu'à 120 km/h sur les caps et la neige tombera en altitude. Mais aucune région n'échappe au vent soufflant autour des 70-80 à l'intérieur de tout le pays, sans oublier aussi la Tramontane et le Mistral soufflant à 90 km/h. Mais le ciel sera dégagé, contrairement au reste du pays, et la perturbation a gagné le sud-ouest au Jura, donnant de la neige en abondance en montagne, et prudence car avec ce vent, ça peut donner du blizzard. Et il fait plus frais ce matin. Au plus bas, on a 1 à Corté, 3 sur les Ardennes, alors qu'il fait 13 à Perpignan, 6 à Paris, 8 à Lorient et 10 à Bergerac.
Et un retour des éclaircies par l'ouest, prévu pour cet après-midi.
Et oui, Jérôme, car l'anticyclone en fait va se renforcer un petit peu et les éclaircies seront plus belles sur l'arc atlantique jusqu'à la Normandie et même l'Île-de-France. Mais ailleurs, le ciel restera menaçant avec encore des averses du nord à l'est, toujours sous le vent et de la neige abondante sur le nord des Alpes et en Méditerranée. Avec le vent très fort, le soleil brillera, le mercure baissera au nord, pas plus de 6 à Beaufort, 9 à Dijon, aux Eaux, Havre et à Lille. On aura 12 à Paris et à Lyon, comptez 13 à Bayonne, 14 à Bordeaux, 16 à Avignon, 17 à Montpellier et le maximum ce sera pour Bastia et le long de la baie des Anges avec 18 degrés.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. Il est 8h17, Géopolitique.